On y va ?
7h, 9h, les promesses de l'aube.
Et pour les plus assidus,
du lundi au jeudi.
Ah bah c'est bon, c'est bon.
105.4 FM.
Des promesses, toujours des promesses.
7h, 9h, les promesses de l'aube.
Bien, on écoutait donc Julieta Venegas avec Caminar Sola, et Sola je ne le suis plus puisque j'accueille dans les studios Magali Verdier. Bienvenue Magali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Magali, vous êtes animatrice au MOC de Bruxelles et vous accompagnez depuis ses débuts la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC Bruxelles, et c'est pour ça que vous venez ici, puisque demain, le 16 juin, donc aura lieu la première grève, en tout cas en Belgique, j'ai l'impression, la première grève des travailleuses domestiques. Merci d'être là. Et donc pour commencer, peut-être nous raconter un peu qui sont les femmes qui sont dans cette ligue des travailleuses domestiques, comment ça a émergé cette idée de se constituer en ligue, et quel est le travail accompli depuis les débuts de ce groupe.
Merci à Radio Panique de m'accueillir. Merci Zoé. Donc la Ligue, elle a commencé il y a 3 ans et demi à partir du constat qu'au sein du syndicat, donc de la CSC, qui en fait organise et affilie les travailleurs sans papier, parce que ce sont des travailleurs et des travailleuses à part entière, il y avait très peu de femmes. Et donc au départ, on m'a confié la mission de pouvoir faire un travail spécifique avec les femmes sans papier. Voilà, donc ça c'était la mission de départ, et donc je m'y suis attelée, et en arpentant les rues, via des réseaux divers, etc., j'ai commencé à rencontrer des femmes qui sont des femmes travailleuses domestiques sans papier. Donc peut-être c'est important de définir c'est quoi le terme de travailleuse domestique. Donc comme son nom l'indique, travailleuse et domestique, donc de maison. Donc ce sont des femmes. Bon, il existe aussi des hommes, je précise, il y a des hommes qui sont jardiniers, mais ce sont surtout les femmes qui sont dans les maisons, et elles sont employées donc par des familles. Il y a aussi des personnes qui ont des statuts légaux, mais dans ce cas-là, ce sont des femmes sans papier. Et ce sont des femmes qui font des tâches multiples, c'est-à-dire qu'elles s'occupent du nettoyage, elles s'occupent des enfants, elles leur font à manger, elles payent parfois les factures, elles font les courses, elles s'occupent des chats, des chiens. Donc font vraiment tout ce qui est l'entretien de la maison physique, mais aussi très 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 important, elles travaillent aussi, elles s'occupent aussi des enfants, ou alors aussi elles peuvent s'occuper des personnes âgées. Donc vraiment elles prennent soin au sens, comme le disait Joanne Tronto, donc une grande sociologue féministe américaine, elles prennent soin des personnes. Donc il y a tout un travail affectif qui se fait, qui n'est pas des moindres et qui est extrêmement important. Donc elles sont souvent, elles sont toutes étrangères, elles sont toutes des femmes, et donc ce qu'on peut aussi constater parmi les travailleuses domestiques, c'est que ce sont des femmes migrantes qui partent de leur pays, je dirais pour 3 raisons. La première raison, enfin, c'est pas en ordre de priorité, hein, ce sont 3 raisons différentes. Ça peut être parfois pour des raisons politiques, et ces femmes n'ont pas été reconnues comme réfugiées politiques en Belgique. Ça peut être pour des raisons économiques, pour subvenir aux besoins de leur famille. Et donc c'est ce qu'on appelle la chaîne du care, c'est-à-dire qu'elles confient leurs enfants, leurs parents âgés à d'autres femmes pour ensuite venir s'occuper d'enfants ici. Et puis elles peuvent aussi partir, elles le disent moins de manière explicite dès le départ, mais quand on creuse un petit peu la vie des femmes, elles partent aussi pour des raisons de violence de genre. Alors ça peut être de tout ordre, des violences physiques, mais ça peut être aussi des violences sociales de genre. Donc par exemple, je connais des Philippines qui sont parties parce qu'elles ont divorcé. Enfin, elles ont voulu divorcer. Le divorce n'est pas autorisé aux Philippines, c'est un pays très catholique. Et elles se sont retrouvées souvent mises au banc de la société, ou des personnes qui sont veuves. Et quand elles se séparent pour cause de violence, eh bien, elles se retrouvent avec encore moins d'argent, et elles partent. Voilà. Donc ça, sont des femmes travailleuses domestiques. Alors, elles viennent d'Amérique latine, en tout cas à Bruxelles, hein, elles viennent d'Amérique latine, elles viennent d'Asie, ben, surtout des Philippines, et elles viennent d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Alors, ce qui était intéressant de préciser aussi, c'est que parmi les travailleuses domestiques, il y a un peu une hiérarchisation, ce qu'on appelle le terme de ethno-stratification, c'est-à-dire qu'on va voir que les femmes hispanophones et anglophones, enfin asiatiques et Amérique latine, ou parfois aussi Amérique centrale, elles vont plutôt travailler dans des familles très argentées, parce qu'il y a une demande de ces familles pour ce travail. Alors elles sont prises parce qu'il y a aussi beaucoup de stéréotypes de la part de ces familles, parce que les asiatiques sont obéissantes et travailleuses, et elles parle anglais. Donc ça, c'est important. On recherche aussi des femmes qui parlent anglais pour qu'elles puissent parler anglais avec les enfants. Et les hispanophones, elles sont joyeuses, elles sont douces, elles sont affectueuses. Pour les femmes africaines et maghrébines, ça va être différent. Elles vont être plutôt en bas de l'échelle. C'est pas moi qui mets des hiérarchisations, c'est ce que renvoie la société. Elles vont plutôt s'occuper des personnes âgées, parce que c'est un travail encore plus dur. Et elles vont avoir des boulots beaucoup plus précaires et beaucoup plus épisodiques. Et c'est parce qu'elles sont, enfin, je pense interpréter de manière juste, elles sont, c'est parce qu'elles sont noires, elles sont parfois aussi musulmanes. Voilà, donc on voit bien quand même que les femmes maghrébines et d'Afrique subsaharienne ont moins de travail, mais néanmoins elles restent travailleuses domestiques et elles restent précaires. Alors donc pour la ligue, donc ce sont en gros, donc nous on a réuni des femmes, on a, je dirais environ une quinzaine de femmes actives, et puis on arrive jusqu'à une trentaine de femmes. Alors c'est un travail très très long parce que les femmes sont sans papier, donc elles ont peur. Elles sont aussi isolées dans les maisons, donc c'est compliqué. Et puis aussi, elles sont, elles travaillent énormément. Enfin, pour celles dont je parle, les premières des Philippines, latino-américaines, elles peuvent travailler. Elles travaillent du lundi jusqu'au samedi. Elles ont parfois le dimanche. Et surtout, ce qui est très compliqué, c'est que elles sont tout le temps disponibles pour les familles. Et donc, au dernier moment, hop, les familles les appellent en disant « Tiens, je dois aller faire ceci, je dois faire cela, est-ce que tu peux rester ?» Et donc, comme elles disent tout le temps, « No pay, no work », donc pas de travail, pas de salaire. Et donc, elles doivent renvoyer beaucoup d'argent à leur famille, voilà, pour payer les études des enfants ou autre chose. Et donc, c'est extrêmement compliqué de les organiser. Alors, à cela, il faut quand même ajouter, pour certaines, le temps de l'église, qui est quand même un lieu de socialisation le dimanche matin. Et il faut ajouter aussi le soin à leurs enfants, puisqu'elles téléphonent par WhatsApp. Ah bon, c'était Skype, à leurs enfants. Et donc, c'est aussi un temps, quand on fait un travail politique avec les femmes, il faut aussi intégrer la question du temps, du soin aux autres, par rapport aux familles, mais par rapport à leur propre famille. Voilà. Donc ce sont une quinzaine de femmes qui sont actives, qui sont travailleuses domestiques, et elles ont commencé. Ce que je dis souvent, c'est qu'elles sont. On a commencé vraiment dans les cuisines, c'est-à-dire des femmes, c'est-à-dire qu'elles m'ont invitée, donc on a réuni quelques femmes autour d'un plat, et puis on a commencé à discuter. Et très vite, elles se sont aperçues que leur réalité individuelle, c'était pas juste individuelle, mais c'était la réalité de beaucoup de femmes. Et alors, on estime, alors vraiment, ça c'est comme les femmes sont sans papier, évidemment, on n'a pas de statistiques. Et donc, on estime, on dit qu'il y a 150 000 sans papier, donc en Belgique, et donc on estimerait à plus de la moitié des femmes, donc on s'est dit 70 000, 80 000. Parce que ce qui est aussi important à dire, c'est que la migration, elle est devenue, les femmes ont commencé à partir de leur pays dans les années 90 et elles sont parties seules, ce qui n'était pas le cas avant, dans le cas des accords bilatéraux, où c'était les hommes qui venaient, puis il y avait le regroupement familial. Et donc, on estime, mais voilà, c'est un chiffre comme ça, 80 000 travailleuses domestiques, et elles vont surtout être dans les grandes villes. Donc, je sais qu'il y en a aussi à Gand, je sais qu'il y en a à Anvers. Et pourquoi elles sont dans les grandes villes? C'est parce qu'il y a toute une classe moyenne très aisée qui fait appel à ces travailleuses domestiques. D'une part, parce que les femmes dans ces familles se mettent aussi à travailler, et donc elles ont besoin de qu'on s'occupe de leurs enfants. Et puis aussi, parce qu'il y a le vieillissement de la population, et donc elles vont faire appel à des personnes pour s'occuper des personnes âgées. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que ces femmes, elles pallient une pénurie dans les services publics, puisque à ce jour, par exemple, si vous avez une personne âgée et que vous voulez avoir quelqu'un 24 heures sur 24 pour s'occuper de vos parents âgés, parce que vous devez travailler, Eh ben, ça n'existe pas. On peut faire appel à une aide, à des aides soins à domicile, aides soins à domicile, mais voilà, ça va être un certain nombre d'heures et c'est pas possible toute la journée. On peut mettre les personnes dans les maisons de repos, c'est très cher, c'est pas toujours adapté pour les personnes âgées. Et donc, elle pallie ça. Et elle pallie aussi le fait que, ben voilà, il y a effectivement des crèches, etc., mais elles ont des horaires définis, ce qui est bien normal pour les bonnes conditions de travail, les travailleuses domestiques. Mais on voit quand même qu'avec la flexibilité de l'emploi, voilà, ben voilà, ça répond à une demande qui n'est pas remplie par les services publics ou même les services privés déclarés, on va dire. Alors, voilà, donc elles font tout ce travail et alors elles circulent aussi. C'est peut-être intéressant si vous baladez à Bruxelles, il y a des endroits assez intéressants. Vous allez peut-être si un jour vous allez à la bascule, il y a un McDonald's, là vous allez voir plein de Philippines. Et donc ces femmes se déplacent dans tout Bruxelles, dans les quartiers riches, Uccle, Woluwe Saint-Lambert, Rue Saint-Genèse, etc. Donc elles font énormément de trajets. Et alors aussi, j'ai oublié de le préciser, mais celles-là ne font pas partie de la Ligue. Il y a des femmes qui sont internes et qui sont là toute la semaine, voilà. Et alors, ce que je voulais dire aussi qui était important, et c'était Florence de Graaf qui le rappelait à juste titre, donc qui est une chercheuse de l'UCL qui travaille sur la question des soins aux autres. La question du travail domestique, c'est aussi, ce sont aussi des causes plus profondes qui sont 400-500 ans de colonialisme, et donc la question de la domesticité, quelque chose qui est très ancien. Ça a aussi existé dans nos pays, puisque les bonnes au moment de la Renaissance, commençait à aller, et après au XIXe siècle, dans les villes pour travailler. Mais c'est une histoire coloniale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les femmes, sans forcément faire cette analyse politique, elles disent toujours « nous sommes des esclaves modernes ». Voilà, parce qu'effectivement, elles travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. En général, elles sont payées 1 200 € par mois à travailler 70 heures. Nous, on a calculé en moyenne, ça faisait 4 € de l'heure. Alors, pour certaines, elles sont logées dans des logements dans les grandes maisons, voilà, dans des conditions plus ou moins correctes. D'autres ont des petits logements. Donc elles sont, moi, j'ai vu ces femmes, j'ai été dans leur logement. Donc, elles sont à très nombreuses dans des petits logements pour essayer de diminuer le coût du logement. Voilà, mais donc elles sont quand même très peu payées. Et ce qu'elles racontaient, qui était très intéressant, c'est qu'elles peuvent travailler de telle heure à telle heure, mais soi-disant elles doivent terminer à telle heure, mais hop, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute. Et des fois, elles le font même naturellement, enfin naturellement entre guillemets, parce que les femmes disaient, ben nous, entre guillemets, on est habitués à nettoyer nos maisons même gratuitement, donc des fois on travaille sans s'apercevoir qu'on travaille pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc ces femmes sont absolument exploitées et donc elles n'ont pas accès à la sécurité sociale puisqu'elles sont sans papier, donc elles n'ont pas accès au chômage, elles n'ont pas accès aux congés payés, leurs heures supplémentaires ne sont pas payées de manière supplémentaire, donc voilà, il n'y a pas de réglementation, d'horaire type, on leur dit toujours dernièrement, tiens, tu travailles, etc., etc. Voilà.
Et c'est très dense ce que vous venez de dire. J'ai plein de questions dans tous les sens. Je voulais revenir sur cette chaîne du Caire aussi et peut-être cette division sexuelle internationale du travail qui peut se mettre en place. Est-ce que et cette ethnostratification dont vous avez parlé, est-ce qu'il y a une conscience de ça? Est-ce qu'il y a un travail sur cette question-là entre elles aussi? Est-ce que justement la Ligue fait ce travail justement de réfléchir, ben comment on peut briser cette stratification-là aussi? Comment on peut justement se solidariser voilà, ça c'était la première partie de la question. Comment aussi, en travaillant avec les femmes, on peut aussi relier ce que les chercheuses cherchent et trouvent comme analyse. Comment on concilie les deux justement? Comment on concilie un travail de terrain avec des femmes qui ont une vie concrète, qui est une lutte permanente, et une réflexion plus théorique sur quels sont les mécanismes à l'œuvre.
Alors, pour la première partie de ta question, Louis, c'est en fait... donc, il y a 2 ans, on avait fait un séminaire, on avait travaillé sur la chaîne globale du Caire. C'est-à-dire qu'on avait vraiment fait toute une animation d'éducation populaire. Et donc, elles ont conscience du, voilà, de toute cette chaîne internationale. Je pense qu'elles sont moins conscientes de l'ethnostratification. Voilà, comme indicateur, moi je me souviens qu'il y a une femme qui est congolaise et qui dit, non, camerounaise, elle me disait, mais moi je comprends pas, parce qu'il y a une solidarité entre les femmes, hein, et donc elle se refile des filons, des trucs. Ah bah tiens, il y a tel travail, elle dit, mais je comprends pas, je réponds à des annonces, je suis jamais prise. Donc je pense qu'elles ont pas forcément conscience de l'ethnostratification. Par contre, ce dont elles sont vraiment conscientes toutes, c'est du racisme qu'elles subissent. Voilà, donc ça, c'est très clair pour elles. Alors, ce qui motive les femmes sur la question, le lien avec les, enfin, sur la question, la compétition, la concurrence internationale, division internationale sexuelle du travail, ce dont elles ont conscience aussi, un tout petit peu, pas encore beaucoup, mais c'est en cheminement, c'est le fait qu'il y a une concurrence entre les femmes avec papier et sans papier. Donc, par exemple, on parle beaucoup des femmes qui sont dans le secteur du titre-service. Et donc, c'est paradoxal, mais en même temps compréhensible, vu ce que tu as dit, c'est-à-dire les histoires concrètes des femmes. Elles aspirent à des papiers. Donc, leur revendication, j'ai peut-être oublié de préciser le béaba, c'est que l'objectif de la Ligue, aussi avec les hommes, c'est de pouvoir accéder à la régularisation. Et donc, comme elles sont dans un syndicat, l'entrée principale, c'est par le travail. Voilà. C'est de dire, nous, on fournit un travail dans l'invisibilité qui est indispensable. Et donc, on veut du travail et on veut être reconnu pour notre travail. Et donc, on veut avoir des papiers. Et donc, elles aspirent à avoir des papiers, et, y compris être dans le secteur des titres-services. Et donc, nous, voilà, je reviendrai sur la grève après, mais c'est vrai que dans l'analyse politique qu'on fait, on introduit l'idée de dire que c'est important qu'il y ait aussi des femmes avec papier qui soient solidaires, et que tout ça est un mécanisme. Hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des femmes sans papier que les salaires sont tirés vers le bas. C'est ce qu'on appelle le fameux dumping social. Hein. Voilà, donc je pense qu'elles ont conscience de ça, petit à petit. Je ne dirais pas que c'est clair et net. Je dirais que la vraie conscience qu'elles ont, c'est qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont victimes de racisme et que ce n'est pas juste ce qu'elles vivent. Alors, par rapport à la question avec les chercheurs et chercheuses, on a notamment une chercheuse qui s'appelle Chiara Giordano, qui travaille sur les questions des femmes migrantes à Bruxelles, mais de manière générale, pas que des personnes avec des sans-papiers. Et c'est vrai qu'on travaille ensemble de temps en temps. Et on voit là, avec cette grève, dont je parlerai après, c'est qu'il y a un intérêt à allier les chercheuses avec les travailleuses domestiques. Pourquoi ? Parce que les chercheuses, elles ont fait des recherches préalables, elles ont des chiffres, elles ont une analyse qui est très intéressante. Et je trouve qu'elles apportent, moi, je pense notamment à Florence de Graaf et Chiara Giordano, elles apportent un regard intéressant sur l'analyse politique de ce qui est en train de se mettre en place. Et elles apportent en plus ce que je dirais apporte moins le syndicat, et c'est logique puisque leur objet social, c'est de travailler sur les conditions de travail, mais je trouve qu'elles ont une analyse, et pas que des chercheuses d'ailleurs, enfin, l'analyse féministe en général, c'est qu'elles se situent aussi du point de vue des usagers, des bénéficiaires du besoin de soins. Elles ont une analyse beaucoup plus globale de la question du soin. Qui a besoin, pourquoi, qui porte le soin, privé, pas privé, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant, et je trouve que, en tant qu'animatrice du MOOC de Bruxelles, c'est du coup intéressant de travailler avec Vie Féminine, donc c'est une association qui lutte pour les droits des femmes, avec la Mutualité chrétienne, parce qu'eux, ils ont des aides à soins à domicile, et ils sont confrontés à des pénuries et à des... Et donc, je trouve que ça a tout son sens d'élargir, à partir de la question des travailleuses domestiques, la question beaucoup plus large de c'est quoi une société qui s'occupe des autres, du bien-être, etc., etc. Alors, je voulais dire aussi un truc important, c'est que ce que disent les femmes, et elles... Enfin, j'aurais déjà renvoyé des choses comme ça, mais elles disent tout le temps... Ah mais nous, on est indispensable pour les familles. Et je dis, ben en fait, vous, votre travail, c'est la reproduction sociale. Hein, donc ça, c'est un point de vue plus marxiste, qui est de dire, ben, en fait, sans vous, ben voilà, la société n'arrive pas à fonctionner. Enfin, surtout pour les enfants. Elles disent, ah mais voilà, nos patrons, ils peuvent s'enrichir grâce à nous, ils peuvent aller travailler. Donc, tous les mots qu'elles mettent, et donc ça, c'est aussi l'objet de la grève, ça montre vraiment qu'elles sont indispensables. Et donc, elles disent à un moment, ben, si nous, on arrête de travailler, ça va être le bazar, ça va être l'état d'urgence. Voilà, donc je trouve qu'elles jouent un rôle, enfin, elles ont une conscience qu'elles sont indispensables et qu'elles sont nombreuses. Donc je pense que le travail de la Ligue de 3 ans, en tout cas, a conduit à cette prise de conscience-là. Alors je sais pas si elle va être... Oui, elle, je pense qu'elle a vraiment il y a une prise de conscience comme ça, et la préparation de la grève le montre bien.
Et justement, par rapport au fait d'être indispensable... enfin, t'as évoqué que c'était surtout des familles plus argentées qui, donc c'est clairement pas la majorité des ménages qui peuvent se, aussi, même en les payant au lance-pierre, se permettre d'avoir quelqu'un qui fait de l'aide à domicile. Est-ce que justement, il y a aussi cette réflexion sur enfin, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait une certaine concurrence peut-être entre les femmes avec et sans papier, donc la question des titres-service, que parfois c'était... ben clairement, ça contribuait aussi à mettre de côté. Comment c'est travaillé aussi cette question de solidarité avec des femmes sans papier, mais qui sont aussi dans une situation de précarité de...
Ok, bah du coup, bonne question, parce que je vais parler de la grève, parce que ça a vraiment mis en jeu ça. Donc au début, on centrait le travail sur la question des papiers, et c'est bien logique, parce qu'il y a des luttes spécifiques, et elles sont importantes, voilà, avec les hommes aussi. Et en fait, bon, les femmes ont décidé de faire grève l'année dernière. Je vais répondre à la question en faisant des détours à la question de la solidarité. Et donc, elles ont décidé de faire grève parce qu'elles ont dit, nous, on a fait des manifestations, on a fait des expositions photos, on a fait un film, et les politiciens sont sourds, muets et aveugles, et donc on en a marre. Et elles ont dit, nous, on va faire grève. Alors, elles ont lancé un peu ça comme ça. Elles étaient cinq, hein. On dit, bon, ben, ok, ben, on y va. Et donc, on a fait tout un processus de prise de conscience. Et une des choses qui est apparue, c'était que c'était important... de faire, quand elle parlait dans la stratégie, elle disait c'est important d'avoir l'appui de la société civile, donc ça on fait beaucoup, et beaucoup avec des mouvements de femmes et des féministes, donc ça je tiens à le relever, c'est vraiment important, on y reviendra par après. Et elles ont dit, ben, c'est important d'avoir le soutien des autres travailleuses et travailleuses domestiques. Donc on a choisi le 16 juin, parce que le 16 juin c'est la journée internationale du travail domestique, et donc c'est pas que les femmes avec papier, c'est toutes les femmes qui font un travail domestique qui sont exploitées. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a commencé, on a été rencontrer des personnes qui sont aides-soignantes ou aides-ménagères à domicile, dans des services donc, publics, hein, des centres d'aide à soins à domicile. Donc on travaille en fait avec la Centrale Nationale des Employés, donc qui est une des centrales de la CSC. On a rencontré des personnes qui sont dans des maisons de repos. On a rencontré, on a des liens privilégiés avec des femmes qui sont investies, enfin qui sont aides ménagères dans le secteur des titres services, qui ont été sans papier, qui après un an ou deux ont rejoint la Ligue en appui à ces femmes. Et ce qui était très intéressant, c'est que, bon, en général, il y avait un appui total de travailleuses, donc on a été agréablement surprises. Il y a aussi des réactions en disant, et du coup je viens à ta question, ah mais quand même, elles nous concurrencent, c'est pas juste, et donc quelque part, ces femmes ont pointé quelque chose et nous dit, ben oui, l'enjeu, c'est pas de vous faire concurrence, c'est qu'elles aient des papiers, et ce sont pas elles les responsables. Les responsables, ce sont les responsables politiques. Et donc, voilà, on a vu émerger des débuts de liens de solidarité. Alors, c'est un long processus, et je pense que c'est, on est en train de bouger quelques centimètres au niveau du syndicat, qui, dans sa globalité, ne tient pas en compte les sans-papiers, qu'elles soient femmes ou hommes. Et donc, ce qui est intéressant à travers cette grève, c'est qu'on a soulevé des questions, de dire, ben voilà, ces femmes, elles font aussi partie de la société, et surtout, elles font partie du système économique, et elles font que, ben, tout est tiré vers le bas. Alors, demain serait régularisé, ça ne veut pas dire que toutes les femmes dans le secteur des titres-services auraient des salaires mirobolants, mais c'est un facteur qui n'est pas des moindres. Et donc ça c'est intéressant parce que voilà, dans une partie du syndicat francophone à Bruxelles, voilà, ça commence à bouger à un tel point que la CNE a décidé d'ouvrir un numéro de grève pour faire une grève solidaire. Et donc merci au collectif Humars qui a déjà ouvert les portes, donc nous on s'est enfoncé dans la porte ouverte, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, voilà, elles sont que 17 travailleuses à faire grève. Donc, nous, on avait fixé l'objectif de 30. On n'y est pas arrivé. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que le processus compte autant que le résultat. On verra le résultat le 16 juin. Parce que en fait, bon, c'est Bellux qui dit ça. Elle dit que les marches ont bougé le centre, et je pense que c'est vraiment ça. C'est que les marches, elles commencent à faire réfléchir le syndicat. Elle dit, bah tiens, finalement, il y a des milieux de travailleuses. Il faudrait peut-être qu'on s'en préoccupe. Après, il y a des gens individuellement au niveau du syndicat qui sont ouverts. Il y a des prises de position ouverture, mais dans les faits concrets, le fait d'ouvrir un numéro de grève, par exemple, c'est quelque chose qui était quand même assez unique, parce que en fait jamais des travailleuses domestiques sans papier ont fait grève, donc il fallait penser à comment on ouvre un numéro de grève pour des travailleuses domestiques qui ne font partie d'aucune centrale, c'est-à-dire les centrales c'est des secteurs du syndicat qui sont liés à des secteurs d'activité, donc ça c'était une première question, on dit comment on va faire, donc on a dû un peu bouger les aspects administratifs. Bon, après, il y a les questions du paiement, elles peuvent payer qu'en liquide, ça, c'est pas encore réglé. Mais ça fait bouger les choses. Et ce qui était très intéressant, en fait, enfin, ce qui est très intéressant, je trouve, mais on évaluera après, c'est que ça... les travailleuses domestiques, elles font partie de la chaîne des travailleuses précaires du soin aux autres, et c'est une part énorme, et en fait, il faut travailler ensemble. Et les travailleuses domestiques, elles seront jamais des milliers. Elles seront jamais des milliers à faire grève, parce que pour les raisons que j'ai explicitées ci-dessus, de même que dans les... Elles seront jamais des milliers, sauf si le syndicat met toutes ses forces là-dessus, on peut arriver à un nombre plus conséquent. Mais ce que disait Angela Davis lorsqu'elle est venue à Bruxelles, donc j'ai été l'écouter, elle disait, mais en fait, les conditions de vie sont tellement difficiles qu'on a besoin de la solidarité des autres travailleurs et travailleuses et de la société civile. Et je pense que la grève, elle met ça en jeu. Elle met en jeu l'alliance d'autres travailleuses domestiques. Elle met dans le débat, même si c'est encore virtuel et sur Internet, sur le fait, il se passe quelque chose. Elle allie des mouvements féministes, des chercheuses. Et donc, je trouve que de manière globale, il y a quand même une très grande ouverture, et notamment de la part des délégués syndicales. Moi, j'étais vraiment agréablement surprise, parce que dès qu'il y a une femme très domestique qui parle, donc quand on parle des vécus, les femmes, elles sont sensibles à ça. Je dis des femmes parce que les majorités sont des femmes. Et donc, ça, c'est intéressant. Voilà.
Mais justement, ce qui est évoqué ici, c'était déjà le cas il y a 3 ans quand s'est lancée la première grève féministe pour le 8 mars, c'est aussi la difficulté de se réapproprier complètement l'outil de la grève comme outil que chacune et chacun peut utiliser quand bien même il n'est pas syndiqué et que c'est pas quelque chose qui appartient au syndicat, l'outil de la grève. Et donc, c'est un des enjeux aussi de pouvoir se dire, est-ce que le fait que justement des femmes qui ne sont pas particulièrement syndiquées, qui sont sans papier, se disent, ben oui, nous aussi on veut utiliser cet outil qui est un outil qui appartient à tout le monde, enfin qui est un droit de tout le monde. Et du coup, est-ce que c'est intéressant de voir qu'il y a un petit cheminement aussi du syndicat vers cette ouverture à d'autres travailleuses. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est que déjà au début des grèves, il y a, que ce soit en Espagne ou ici en Belgique ou ailleurs dans le monde où il y a eu des grèves féministes, il y avait cette difficulté justement à mobiliser des femmes qui sont les plus précaires et qui sont dans les situations les plus difficiles, et donc souvent celles qui peuvent se permettre de faire grève, c'est celles qui ont un emploi déjà correctement payé, qui sont bien couvertes, qui sont donc c'est riche de pouvoir voir que par la bande il y a cette mobilisation. Et qu'elles n'attendent pas non plus que cette intégration soit faite, parce que j'ai l'impression aussi, pour y avoir participé, que c'était très difficile pour les collectifs féministes qui organisaient la grève d'intégrer vraiment les femmes sans papier, et malgré l'intention qui était et le souhait que tout le monde soit là.
Mais en fait, pour préciser, donc moi je partage ce qui est dit. Par contre, les femmes, elles font partie du syndicat, en l'occurrence. Là. Les femmes de la Ligue sont affiliées au syndicat. Et je pense qu'en étant en lien étroit avec le syndicat, de ma position, elles avaient déjà quelque part un pied dans le syndicat. Et donc l'enjeu, il est plus de dire à l'intérieur du syndicat, comment faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance de cette question à part entière, au même titre que voilà, que tout travailleur ou travailleuse avec papier, avec des parcours plus classiques. Bon, le syndicat était aussi confronté aux coursiers, par exemple. C'était complètement atypique, hein. Donc, en fait, la flexibilité du travail, on voit de plus en plus de statuts hyper précaires, complètement en dehors des cadres habituels. Et donc, le syndicat va devoir se saisir de ça. Et en train, je veux dire, à sa petite mesure. Voilà, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que... Donc voilà, juste préciser quand même que ces femmes, elles sont syndiquées. Et voilà, et donc leur identité, elle est quand même, le fait qu'elles soient syndiquées, elles ont une identité de travailleuses avant tout, et de travailleuses domestiques. Elles ont une identité très forte autour de ça. Moi, je suis en lien avec des femmes du collectif des femmes sans papiers, qui sont super chouettes. Et c'est vrai qu'elles, elles luttent pour les papiers et elles font un travail extraordinaire. Donc moi, je tiens vraiment à le souligner. Mais leur ancrage n'est pas l'ancrage du travail. L'ancrage, il est aussi, enfin, leur droit, c'est par rapport aux enfants, c'est par aux endroits, et c'est hyper important. Mais l'ancrage n'est pas. Après, quand je parle avec elles de manière informelle, elles disent bah oui, moi je travaille toutes de manière informelle, mais comme elles travaillent beaucoup moins et qu'elles sont dans des occupations, je dirais leur angle de lutte pour la régularisation, il est différent, il est très bien, très important, il est tout à fait valable, mais je dirais que c'est moins l'ancrage du travail. Le fait qu'elles appartiennent au syndicat, les femmes, bah c'est quand même, voilà, c'est quand même ça, et puis c'est aussi des moyens humains qu'on met pour organiser ces travailleuses domestiques. Voilà, et elle parle pas, par exemple, ces femmes, bon, alors en plus, aucune d'entre elles n'ont des enfants ici, donc par exemple, la question des droits des enfants aux allocations familiales, etc., c'est pas du tout une question, parce que elle, c'est régularisation, bonnes conditions de travail. Voilà, après, quand elle parle avec des femmes des titres service, elle leur dit, oui, c'est super, mais vous allez voir, quand vous êtes en titre service, vous êtes complètement exploité, je dis, voilà, donc c'est... Voilà, mais c'est pas grave, ça fait partie de... Voilà, ça fait partie du processus. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce travail, en fait, le fait d'avoir choisi le 16 juin, parce qu'à un moment, on a dit, pourquoi pas le 8 mars ? Bon, c'est oui, mais alors le 8 mars, tactiquement parlant, c'est pas un bon plan, parce qu'il va y avoir plein de médias, et on va pas être toute seule. Et le 16 juin, mais quand même, en la question du travail domestique, c'est important de soulever cette identité. Et en fait, au plus, moi, en tant que Magali, je découvre la réalité des travailleuses domestiques, puisqu'on a rencontré ici des Espagnols, grâce au collectif Fumars, et grâce à des partis européens de gauche, donc des femmes qui sont organisées en syndicat en Espagne, qu'on a rencontrées, qui sont venues à Bruxelles. Voilà, je connais plus la question des titres-services, et on voit en fait vraiment le continuum de l'exploitation des femmes qui font des boulots de travail domestique, et qui sont vraiment en bas de la hiérarchie, parce qu'il y a quand même des hiérarchies entre infirmières, assistantes sociales, elles sont vraiment en bas. Or... voilà, pendant le Covid, elles ont continué à travailler. C'est elles qui nettoyaient tous les virus des hôpitaux pendant le Covid. Voilà. Et donc, vraiment, c'est frappant le continuum de l'exploitation. Par exemple, les femmes espagnoles, elles ont eu un statut. Elles travaillaient de manière informelle. Elles ont eu un premier statut. Et en fait, elles font pas partie du régime général de travail. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas droit aux allocations familiales. Et donc, elles luttent aussi, ce qui est complètement fou. Est-ce qu'elles elles luttent pour avoir, elles sont en train de gagner d'ailleurs, pour faire partie du régime. Je repensais, grâce à un collègue de la CNE, aux accueillantes à domicile ou vie féminine à travail, femmes qui gardent les enfants. Et ces femmes ont eu un salaire depuis à peine 3 ans. Elles ont lutté 40 ans pour avoir un salaire. Et donc, elles sont pas très. Oui, elles sont très domestiques puisqu'elles gardent des enfants à la maison. Et donc, c'est fou comme, en fait, des milliers de femmes dans le monde entier. C'est un travail, l'extension naturelle, entre guillemets, du travail domestique. Elles n'ont pas de compétences, c'est pourquoi les payer, alors qu'elles sont fondamentales. Ce qui est intéressant, c'est que les Espagnols, donc ça, c'est un travail que j'aimerais faire avec les membres de la Ligue et le syndicat, c'est qu'elles, elles ne s'appellent pas travailleuses domestiques, elles s'appellent travailleuses employées de maison et de soins aux autres. Trabajadoras del hogar y de los cuidados. Et elles disent, nous, c'est important, parce que si on dit travailleuses domestiques, du point de vue de la société en général, ça va être trop réducteur. On va penser, elles font juste le ménage. Elle dit, nous, on fait partie des soins. Donc, on fait beaucoup plus que ça. Et ça, je trouve que c'est une lecture politique extrêmement intéressante. Et donc, voilà. Bon, tout ça est arrivé un peu récemment, mais je pense que c'est important qu'on dise ça. Et donc, ça demande une vraie reconnaissance, aussi une professionnalisation. Et alors, voilà. Donc, ça, je voulais dire ça. Et donc, voilà, vraiment la question de l'exploitation du travail domestique. Et au-delà de ça, les femmes de chambre dans les hôtels, voilà, c'est aberrant l'exploitation que ces femmes subissent. Enfin, moi, j'étais à un colloque sur les titres services, c'est juste incroyable, quoi.
Et justement, demain, il va y avoir, parce que je vois que le temps file et que tu vas devoir nous laisser, il y aura des interpellations, il y aura différents moments de la journée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça va se passer?
Alors, donc il y aura trois moments, enfin quatre. Donc un premier moment, ce sera une conférence de presse qui se tiendra dehors à la place du Luxembourg, donc devant le Parlement européen, suivi d'un Parlement des travailleuses domestiques. Le deuxième moment, et je reviendrai sur le Parlement et pourquoi, le deuxième moment, ce sera de 3h à 5h de l'après-midi, à la rue Plettings, numéro 19, dans les locaux de la CSC Bruxelles. Et c'est un moment d'échange autour de lutte de travailleuses domestiques. Et donc, il y aura notamment des ex-grévistes de l'hôtel Ibis au Batignolles qui vont venir. Alors, elles ne sont pas travailleuses domestiques au sens où elles travaillent dans les familles, mais par contre, elles ont fait la grève et elles font quand même un travail de ménage. Et donc, voilà, je trouve que c'est important. Et donc, elles sont super et elles vont venir. Il y aura aussi Grèce Papa, qui en fait a beaucoup travaillé sur la convention internationale, la C189 de l'Organisation internationale du travail, voilà, que la Belgique a ratifié en 2015, mais qui évidemment ne l'applique pas en ayant des femmes sans papier. Donc c'est une convention qui oblige chaque État qui a signé cette convention à garantir des bonnes conditions de travail. Et puis ensuite, il y aura une personne déléguée syndicale des titres services, parce qu'ils sont en train de faire toute une campagne qui s'appelle le Grand Nettoyage pour obtenir des augmentations de salaire et des meilleurs remboursements de leur transport en commun. Et puis, il y aura une personne de Vie Féminine, Sozic Dubo, qui, elle, va plutôt parler de pourquoi, qui va plus être une analyse politique, de pourquoi le travail ménager est-il si dévalorisé et si peu considéré. Voilà. Et ensuite, le quatrième moment, donc conférence de presse, parlement, échange, ce sera à 17h30 jusqu'à 19h30. Là, c'est un apéro pour faire la fête. Et ce sera juste à côté, au 45 rue des Chartreux. Et donc, l'idée, on trouve que c'était important de célébrer cette grève. Et on a pris un moment en soirée pour que les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas venir, et on peut le comprendre, puissent quand même assister. Donc la manière dont on a pensé aussi cet événement avec les travailleuses domestiques, c'était d'être attentif à ce que tout le monde puisse participer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et peut-être dire un petit mot sur le Parlement des travailleuses domestiques, d'où est venue l'idée. En fait, il y a deux ans, les femmes, elles ont écrit un article collectif dans le journal Axel, qui s'appelle Nous les domestiques modernes, vous nous entendrez, je me souviens plus du titre. Mais un des trucs qu'elles ont dit, nous, on aimerait bien dérouler un tapis rouge devant la cathédrale Sainte-Gudule, et puis elles ont parlé de la place du Luxembourg, parce que là, il y a des patrons de la Commission européenne qui embauchent des travailleuses domestiques. On ne sait pas qui, mais il y en a. Et donc, elles se sont dit, mais nous, ça nous paraît important d'être dans la rue et pas être à l'intérieur. On avait aussi imaginé un moment, parce que les deux ministres que l'on vise dans les revendications, donc l'accès au permis de travail et une demande de protection lorsqu'on veut porter plainte contre un patron ou une patronne qui abuse, c'est monsieur Claire Failly, qui est donc le ministre de l'Emploi du parti Défi à la région Bruxelles-Capitale, et monsieur Vervoort, qui est donc le ministre président de la région Bruxelles-Capitale. Et donc, nous, on fait des revendications adressées au gouvernement bruxellois, parce que la région bruxelloise a les compétences de l'emploi, même y compris par rapport à la question des sans-papiers. Et donc on s'est dit, ce serait bien d'aller devant chez eux, mais bon, ils sont tellement mal placés, il y en a un dont le bureau est dans une zone neutre, donc on ne pouvait pas faire quelque chose. Et puis l'autre, c'est tout près de la gare botanique, non, tout près de la place Roger, c'est vraiment pas un lieu sympa. Donc on a dit, place du Luxembourg, on a choisi midi 2h, parce qu'on s'est dit, il y a plein de gens qui viennent manger le midi, donc ils vont nous entendre. Et voilà, ce lieu s'y prêtait, central, etc. Et donc pourquoi le Parlement? C'est parce qu'on s'est dit, mais en fait, on ne parle pas de ça au Parlement. Au Parlement bruxellois. Puis ça, on était aussi inspiré par le film de Debout les femmes de Monsieur Ruffin, de Ruffin, qui a fait un film sur les femmes travailleuses domestiques en France. Voilà. Et donc l'idée a émergé. Et donc c'est un faux Parlement avec une présidente de Parlement. Et puis il y aura les personnes qui viendront seront députées une fois dans leur vie de manière temporaire. Et les femmes seront des experts du vécu. Et donc ce sera la Commission Affaires économiques et emploi qui va traiter d'une question urgente. qui est celle des travailleuses domestiques. Donc voilà, il y aura toute une mise en scène. Voilà, il y aura, ce sera aussi ponctué de musique, de chants, de tambours, etc. Et des choses assez marrantes, mais je préfère laisser la surprise. Et voilà, on a invité les politiciens, et donc Monsieur Clairefeuillet a répondu par la négative, donc il nous entendra. Et puis Monsieur Vervoort a envoyé quelqu'un de son cabinet qui écoutera. Il vaut mieux, voilà, parce qu'elle n'a pas mandat pour intervenir. Nous, on avait voulu qu'ils interviennent pour se positionner. Mais donc, voilà. Donc,
Eh bien, merci. Merci beaucoup. Donc, on peut vous rejoindre à 11h à la place du Luxembourg.
Ouais, 11h30, c'est la conférence de presse. Voilà, mais si les gens...
Ah oui, c'est temps... midi 14h, ouais. Excusez-moi. Voilà, donc...
Voilà, si jamais vous pouvez pas venir et que vous aimez bien les réseaux sociaux et vous êtes connecté, vous pourrez aussi suivre tout le Parlement sur la page de Dalila Benhammer, donc qui est une personne d'ailleurs dont il y a un très beau portrait dans le magazine Axel et qui en fait va filmer toute la séance comme dans un Parlement en fait, et tout sera enregistré. Et puis ensuite il y aura des capsules, etc. Et sinon, si vous pouvez pas venir en journée, ben bienvenue. À 17h30 jusqu'à 19h30, boire un apéro dans un lieu plutôt assez sympa. Voilà. Vous découvrirez le syndicat.
Voilà. Mais merci beaucoup, Magali Verdier, d'être venue nous parler de cette grève qui aura lieu demain. Ben, merci.
Merci et à bientôt.
Voilà. À bientôt. Bonne journée.